qui viendrait faire obstacle à la réalisation du projet recherché. Et nous voyons que cette histoire s'est passée ainsi. L'impatience dans la patience de Sarah a fait naître Ishmaël. Et Ishmaël est une approximation de l'identité d'Isaac, qui s'est instaurée en rivalité d'Isaac, et qui a fait souche dans sa propre fécondité de nombre, par multiplication à l'infini de cette approximation d'identité d'Isaac qui s'appelle Ishmaël. C'est bien que l'expression que j'emploie est un peu dure, okay, mais je suis le récit biblique. Effectivement, lorsqu'on compare le comportement islamique au comportement juif, c'est très différent parce que c'est pas la même chose, mais ça ressemble. Mais ça ressemble un peu comme une approximation d'identité. Je crois que Mahomet, d'ailleurs, très, très intentionnellement, a construit une sorte d'imitation du judaïsme pour Ishmaël. Je vous donne un exemple en particulier. Vous savez, la minutie extrême, souvent exagérée, des lois de la cacheroute juive. Eh bien, il y a une cacheroute musulmane, mais elle est approximative. Et en fait, ceux qui ont vécu en société musulmane, ça a été mon cas, je peux vous en parler, les musulmans mangent de la cacheroute des juifs. Les juifs ne peuvent pas manger la cacheroute des musulmans. Il y a quelque chose d'analogue. En fait, nous n'aurons pas le temps d'étudier tous ces exemples que je voudrais vous citer en détail, mais lorsque vous étudiez la raison de la séparation entre Ishmaël et Isaac, on s'aperçoit effectivement de ce principe. Les deux sont capables de rire, Ishmaël et Isaac. Mais Ishmaël rit au présent, alors qu'Isaac rira à l'avenir, dans le futur. Et je vous raconte la scène. Lorsque Abraham a fait une fête, lorsque Isaac a été sevré, Sarah voit... Est-ce que nous avons déjà étudié ça cette année ? Donc, Sarah voit Ishmaël rire. Et elle demande à Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël en disant qui l'oirach et ben Ahama imbeni imitzrak, car le fils de la servante ne pourra pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Et pour quelle raison? Je reprends, si vous voulez, la situation. Sarah est celle qui avait eu la générosité, dans son impatience, la générosité de donner à Agar le statut de celle qui enfante. Je pourrais l'analyser de la manière suivante. Sarah craint que ce soit elle qui soit l'empêchement du fait que l'enfant de la promesse à Abraham ne peut pas être engendré par Abraham. Elle sait Abraham fécond, peut-être que c'est elle qui est l'empêchement. Alors elle ne voit pas l'accomplissement de la promesse d'un enfant à Abraham par Sarah, c'est-à-dire dans l'identité hébraïque, venir. Et avec une générosité totale, elle demande à Abraham de prendre Agar et de faire souche avec Agar, de telle sorte qu'au moins ce qu'Abraham représente reste dans l'histoire jusqu'à l'éventualité d'une Sarah féconde dans l'avenir. Est-ce que c'est clair l'analyse? Or, ce serait cette même Sarah qui va intervenir, si c'était une histoire de faits divers, comme une mégère jalouse de l'autre femme de son mari. C'est invraisemblable. Okay. En fait, le verset précédent nous dit que Sarah voit le fils de Agar rire au présent, alors que Isaac est celui qui n'a le droit de rire que dans le futur. Et alors, où est l'analogie entre Ishmaël et Isaac? C'est qu'ils sont capables de rire, tous les deux. Mais c'est un rire absolument différent, que je vais analyser très rapidement. Le rire d'Ishmaël est un rire au présent. Ça signifie quoi d'abord? Le rire du fils d'Abraham. Le fils d'Abraham peut rire parce qu'Abraham a dévoilé le fait que le monde a un créateur. Si le monde a un créateur, donc le monde a un sens, quelles que soient les apparences. Et alors on peut rire. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Okay. Le rire n'aurait pas de fondement s'il n'y avait pas cette intuition, cette certitude d'intuition que le monde a un créateur. Alors Ishmaël, fils d'Abraham, comme Isaac, fils d'Abraham, savent rire parce qu'ils sont fils d'Abraham et que le monde ayant un créateur, le rire est possible. C'est bien clair? Mais voilà, Ishmaël rit au présent. C'est-à-dire, il se satisfait du monde comme il est au présent. Puisque le rire de la joie, c'est la satisfaction du monde dans lequel on est inséré. Et alors, le fait d'avoir le rire au présent désigne un indice de moralité de satisfaction du monde bien et mal. Le rire d'Isaac est refusé à Isaac jusqu'à ce que dans l'avenir, le monde soit le monde du bien. Le monde où le bien aura triomphé du mal. Il y a un, je cherche le terme en français, le fait de réprimer le rire jusqu'au futur où il sera permis. Je ne peux vous donner que l'exemple du côté de Maharavi, qui était un mur où on ne riait pas, et ça commence à venir. Vous avez remarqué ce qui se passe au côté de lequel, pendant 2000 ans, on pleurait, au point que les goïms appelaient ça le mur des pleurs, des lamentations. Et puis, il y a déjà des mariés qui sont photographiés devant le mur des pleurs. Je sais pas si. Voilà un exemple. C'est-à-dire l'impatience de l'enfantement, alors que le temps de la maturité de l'engendrement n'est pas arrivé, risque de faire apparaître une approximation d'identité qui fait obstacle au projet réel de l'identité, et c'est vrai à chaque étape. Alors voilà la raison pour laquelle il y a stérilité apparente, entre guillemets, jusqu'à ce que l'enfantement soit possible. Est-ce que vous avez deviné en filigrane ce que les chrétiens ont fait de ce thème des Imaot d'Israël? Je ne mets pas les points sur les i, ils y sont tout seuls. Ils en ont fait un mythe. Bien, je reviens au sujet. Nous allons étudier un peu plus en détail la raison pour laquelle il y a stérilité de Rivka. Alors on va lire les premiers versets. Vélet Tordot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olivet Yitzhak. Et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. On a appris en passant qu'il était nécessaire de mettre l'accent sur le fait qu'Isaac est bien le fils d'Abraham. Là, je vous remets une parenthèse. Ça se relie un peu à l'analyse de tout à l'heure. C'est que on va dénier à Isaac sa filiation à Abraham. Je crois que, d'une certaine manière, ça se passe de notre temps, lorsque on met en question l'identité juive de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie. On avance. Vaïe Yitzhak ben Abraham Shana, et Isaac était âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka bat Betuel Arami, lorsqu'il prit Rivka, fille de Betuel Araméen, mi Padan Aram, de Padan Aram. Padan Aram est la région de Haran, où la famille d'Abraham, en chemin vers Eretz Israël, s'était arrêtée, avec Nahor en particulier, le frère d'Abraham. Abraham et Lot seuls ont continué jusque Eretz Kanaan. Achot Laban, elle est la sœur de Laban, Arami l'Araméen, l'Oléisha pour lui, pour femme. L'accumulation de l'adjectif araméen dans ce verset doit être expliquée. On sait tout cela. On sait que Rivka est la fille de Betuel et que Betuel est araméen. On sait qu'il est de Padan Aram. On sait qu'elle est la sœur de Laban l'araméen. Pourquoi cette accumulation de l'adjectif araméen? C'est l'explication que le Midrash va mettre en évidence de l'empêchement de l'enfantement de Rivka. Enfin, pour le dire très directement, vous me direz si c'est suffisamment clair. Dans l'engendrement des générations, Isaac est fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Alors, on attend que Isaac engendre Israël. Et voilà que cet engendrement est bloqué. Pourquoi? Parce que la matrice de l'engendrement a un handicap. Elle est handicapée par son origine araméenne. C'est indiqué par cette accumulation d'adjectifs araméens dans notre verset. À travers Isaac, il n'y a aucune difficulté. Pas plus que la difficulté d'Abraham pour engendrer Isaac. Isaac n'aurait de difficulté d'engendrer Israël. Mais à cause de Rivka, la difficulté est absolue. Est-ce que la question est suffisamment clairement posée, okay? Il y a ici un cas particulier dans le cas général de l'empêchement de l'engendrement, le cas particulier de Rivka, où l'empêchement est absolu. J'essaie de mettre en évidence les raisons que va nous donner le Midrash. Eh bien, ça vient de ce que ce décalage d'identité entre Isaac et Rivka. Isaac est un hébreu, fils d'un araméen redevenu hébreu, Abraham. Alors que Rivka est hébreu, fille d'araméen non redevenu hébreu. Il y a, si vous voulez, dans l'identité de Rivka, qui est sa déquête. Mais les textes sont très clairs. Il n'y a aucune mise en question de l'identité de tzaddik de Rivka. Mais elle est tzaddik ben Rachar, alors que Isaac est tzaddik ben tzaddik. Vous suivez cette équation. Et par conséquent, cet enfant attendu, à travers Isaac, aurait une identité de tzaddik, mais à travers Rivka, aurait une identité de Rachar. Et on est devant l'impossibilité absolue. C'est-à-dire, c'est Israël qu'on attend. Et Israël ne va apparaître que dans une dialectique de rivalité entre deux jumeaux qui vont naître pour résoudre la difficulté, Jacob et Ésaü, lequel des deux sera Israël. Eh bien, mais cet Israël qu'on attend à l'origine, a priori, est empêché d'enfanter. J'emploie une expression qui paraîtra peut-être un peu dure, parce qu'il risque d'être un monstre. Un être à la fois tzaddik et à la fois rachar. Je n'ai pas parlé des Juifs. Une espèce d'identité impossible. Une identité totalement tzaddique et totalement rachar. Totalement tzaddique par Abraham, totalement rachar par Nahor. C'est-à-dire un mix d'identité. L'hébreu devenu araméen qui redevient hébreu, ça c'est le tzaddique. Je résume par là toute l'histoire antérieure. Les Hébreux étaient dans l'exil de Babel, ils se sont imprégnés d'une civilisation qui est arrivée à son échec. Abraham sort avec sa famille de cette civilisation, mais une partie de cette famille d'Abraham reste araméenne. C'est Nahor. Nahor, chez qui on va chercher les perles précieuses qui deviendront les mères d'Israël. Mais la souche de ces pierres précieuses, les huîtres de ces pierres précieuses, si vous voulez, sont empoisonnées. Et la pierre a encore cette origine, si j'ose dire. Bon, peu importe l'image, c'est l'idée qui est importante. À travers Rivka, il y a ce risque de la tentation Nahor. Je court-circuite tout de suite avec la situation existentielle dans l'histoire. Eh bien, chez les Juifs héritiers et les Hébreux, il y a cette ambivalence, il y a cette ambiguïté. Il y a d'une part l'héritage hébraïque qui travaille dans l'espérance messianique, et puis il y a d'autre part la tentation galoutique qui nous vient de Nahor l'araméen. Vous avez compris ce problème. Et alors...
c'est pour ça qu'il y avait un jumeau.
C'est pour ça
qu'il y avait des jumeaux.
Oui, j'arrive. Étant donné cette impossibilité, comment on dit en français, dépasser l'impossibilité, eh bien la stratégie de Dieu va faire deux jumeaux. Et sur une compétition, lequel des deux sera Israël? Alors je vais vous dire les différents plans, les différents programmes, les différentes espérances qui sont dans ce récit. Vont naître deux êtres. Un qui a, d'après le récit, une vocation du monde matériel. L'autre qui a une vocation du monde spirituel. Alors, je voudrais être très clair, vous me direz si c'est suffisamment clair, parce que c'est une question difficile. Je n'ai pas dit que l'un a une option de tzaddik et l'autre a une option de rachar. Je n'ai pas dit que, a priori, de façon prédestinée, Ésaü, c'est le rachar et Jacob, c'est le tzaddik. Ce que nous dit le texte, jusque-là, n'a rien à voir avec ça. Ce que nous dit le texte, c'est que Ésaü a choisi ce monde-ci et Jacob a choisi le monde à venir. En d'autres termes, Ésaü a choisi les réalias du monde de l'homme, alors que Jacob a choisi les idéalias du monde de l'homme. Ésaü a choisi la vie matérielle, Jacob a choisi la vie spirituelle. Et c'est ça le problème de l'homme. Je reviens à l'image de tout à l'heure. Un enfant qui serait simultanément totalement tzaddik et totalement rachar. D'une certaine manière, tout homme est dans ce cas. Tout homme dispose d'un instinct du bien et d'un instinct du mal. C'est-à-dire, de manière un peu diluée, tout homme pourrait représenter ce modèle Israël dans sa difficulté avant d'être résolu, dans le projet de la naissance, tzaddik par Isaac, fils d'Abraham, rachar par Rivka, fille de sœur de Laban, fille de Aram, de Padan Aram, l'araméen. C'est clair le schéma. Et, alors voilà, nous avons deux sujets humains en présence. Les deux pourraient être tzaddik et les deux pourraient être achar. je reviendrai pour l'analyser. Ce qui est arrivé, c'est que Ésaü, l'homme de la vocation matérielle, est devenu Rachar de sa propre vocation, et que Jacob, l'homme de la vocation spirituelle, est devenu Tzadik de sa propre vocation. Voilà l'histoire qu'il nous est racontée. Je reprends depuis le début ce point-là. Ce n'est pas que, de façon prédéterminée, Jacob, en tant qu'homme de la vocation matérielle, devait devenir Rachar. Que Ésaü, en tant qu'homme de la vocation matérielle, devait devenir Rachar, et que Jacob, homme de la vocation spirituelle, devait devenir Tzadik. Et nous avons appuyé sur Rashi tout à l'heure. Les deux sont donnés à une des deux tâches de l'homme. Dieu a créé l'homme pour résoudre deux tâches incompatibles et contradictoires. Réussir la vie matérielle et réussir la vie spirituelle. Il faut réussir les deux. Je vous donne un des schémas du Midrash. Pour aller au Olam Haba, qui est l'essentiel, il faut passer par ce monde-ci. Et par conséquent, si on échoue dans ce monde-ci, on ne peut pas arriver à Olam Haba. Il faut que les tâches de ce monde-ci réussissent pour qu'il y ait quelque part où préparer le mérite d'aller dans le monde à venir. Et si on ne réussit pas ce monde-ci, on perd les deux. Il faut, je vous donne une parenthèse et vous me rappellerez où il faut que je raccroche. Où il faut que je raccroche, c'est les deux vocations. Et dans chacune d'entre elles, on peut être tout à dit qu'au Rachar. La parenthèse est la suivante. Elle m'a échappé. Qu'est-ce que je disais juste avant ?
De sa propre volonté.
Je reprends l'analyse, ça reviendra. Non, je voulais faire allusion à une autre situation qui éclaire d'autant mieux le même problème. Il me semble que c'était la naissance de Moïse. Bon, enfin, je reviendrai au sujet. Eh bien voilà, on est habitué à l'idée que les tâches matérielles rendent Rachar et à l'idée que les tâches spirituelles rendent Tzadik. Alors je vais commencer par la vocation spirituelle. L'immense majorité des hommes qui se sont occupés des tâches de l'esprit sont devenus des Rachaïm. Il ne suffit pas, au contraire, c'est peut-être plus délicat, plus périlleux, il ne suffit pas de s'occuper des choses de l'esprit pour être un Tzadik. J'ai l'habitude de donner un exemple, mais récemment on peut en donner un deuxième. Je pense aux prêtres de l'Inquisition. C'était des hommes de religion, c'était des hommes de l'esprit, c'était les plus grands rachaïm que la terre ait porté. Oui, on peut être un homme de l'esprit, être un rachat. Bon, maintenant, vous avez les khoménistes, okay, c'est la même chose. Ils sont dans un autre monde, ce sont des hommes de religion, ce sont des hommes de foi. Eh bien, ce sont les plus grands rachaïm que la terre a porté. Ce qui se passe actuellement, téléguidé par les Iraniens, vous savez ce qui se passe. Donc, c'est le nazisme dans sa version X, Y, Z prime. Et de la même manière, il faut comprendre que le fait de se vouer aux tâches de l'esprit, c'est pas forcément du tout être donné à l'impureté de la matière et que cela. Par exemple, les hommes qui ont inventé l'aspirine ont fait le plus de bien à l'humanité que je ne sais pas combien d'homélies et de discours moralistes à travers les siècles. Vous voyez le problème. Il y a un personnage de l'histoire biblique qui montre qu'on peut être un homme voué aux tâches matérielles et être tzaddik. Ça va être la preuve que va faire Joseph. Joseph est un tzaddik voué aux tâches de la matière et non seulement rester tzaddik, mais devenant tzaddik, devenant le modèle du tzaddik. De tous les personnages de l'histoire d'Abraham, c'est le seul auquel la tradition ajoute l'adjectif tzaddik. Joseph a tzaddik. Il y en a eu par la suite. Shimon a tzaddik, il y en a eu par la suite. Mais au niveau des personnages de l'histoire d'Abraham. Voilà donc l'équation qui se met en place. Alors vous suivrez ce récit de la manière suivante. Le plan de Isaac était que les frères vont s'allier et collaborer pour résoudre les deux problèmes qu'il faut résoudre dans le monde. C'est-à-dire Ésaü va... et il en est capable être l'homme de la matière et il partagera la bénédiction matérielle avec Jacob qui est l'homme de l'esprit et Jacob, l'homme de l'esprit partagera la bénédiction spirituelle avec Ésaü. S'il y a fraternité entre les frères, alors le problème est résolu. Cette impossibilité sur la définition de laquelle je voudrais revenir de réussir, qu'un seul homme réussisse à la fois les tâches spirituelles et les tâches matérielles, est résolue dans l'alliance entre deux types humains, l'un voué aux tâches matérielles et l'autre voué aux tâches spirituelles. Mais il faut que les deux soient tzadikim de sa propre vocation. Alors, ça c'était le plan de Isaac. C'est la raison pour laquelle Isaac a un projet duquel il ne dévie pas, donner la bénédiction matérielle à Ésaü et la bénédiction spirituelle à Jacob. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette paracha, c'est qu'il y a deux bénédictions en jeu. La bénédiction matérielle qui était destinée à Ésaü et que Jacob va recevoir lorsque Ésaü sera disqualifié même de la vocation matérielle. Mais d'autre part, la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction spirituelle et qui, elle, dans tous les cas, était réservée à Jacob parce qu'elle ne peut être donnée qu'à celui qui ne prend pas femme dans le pays de Canaan. Alors que Ésaü, ayant pris femme dans le pays de Canaan, était disqualifié de la bénédiction d'Abraham. Mais il gardait la bénédiction d'Isaac et la bénédiction matérielle. Alors je vous donne la référence, vous la noterez, vous allez la lire avec moi, de ces deux bénédictions différentes. Et après on verra le plan de Rivka cette fois. Alors au chapitre 27, verset 28, vous avez l'intitulé de la bénédiction matérielle. Je répète, celle que Isaac voulait donner à Ésaü, a priori. La difficulté ici, si vous suivez, c'est qu'on apprend, entre-temps que Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse et avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et que, par conséquent, on ne comprendrait pas pourquoi Isaac, alors qu'Ésaü a cédé le droit d'aînesse à Jacob, continue à vouloir donner la bénédiction matérielle à Ésaü. C'est que, quoi qu'il en soit, puisqu'Ésaü est l'homme de la vocation matérielle, il y réussira, il faut donc le bénir, la bénédiction matérielle, il partagera avec son frère. Nous allons voir ce que ça vérifie et qui rend ce plan impraticable. Alors si vous avez le verset, verset 28 du chapitre 27, « Veitel necha Elohim, et que Dieu te donne, mital hachamaim, de la rosée du ciel, ou mishmane haret, et des gras de la terre, des graisses de la terre, verov dagan vetirosh, et abondance de blé et de vin. Yarabducha Amim, Vishtahavulecha Leumim, que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi, Evegevir Leahecha, sois le noble de tes frères, Vishtahavulecha Benimecha, et les fils de ta mère se prosterneront devant toi, Oarecha Arour, ceux qui te maudissent, je maudirai, Umerachecha Barour, et ceux qui te bénissent, je bénirai. Voilà la bénédiction de ce monde-ci qu'Ésaü devait recevoir dans le plan de Isaac. Alors que vous allez prendre l'autre bénédiction, celle qui dans tous les cas était réservée à Jacob, elle se trouve au chapitre 28. Et on va la prendre à partir du verset 2. Non, prenez à partir du verset 1 du chapitre 28. Kafret. Vaïkra Israël et Yaakov et Barechoto. Et Isaac appela Jacob et le bénit. Vaïtsavehu Vayomerlo, il ordonna et lui dit, Lotika Isham et Vnot Canaan, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Canaan est la civilisation échouée. Israël se prépare pour la remplacer. Si avant que Israël n'ait constitué, il y a mariage avec la fille de Canaan, alors il y a une matrice, encore une fois monstrueuse, qui apparaîtrait. Il ne serait ni Israël ni Canaan. C'est bien clair. À partir du moment où l'identité d'Israël existe, alors il peut y avoir des femmes de peuples étrangers entrant en Israël. Le cas des Cananéennes étant un cas particulier, il y avait des tzadiks chez les Cananéens. Il y avait un processus historique par lequel les tzadiks des Cananéens pouvaient revenir en Israël par la suite. En particulier Judas et Yehuda. Va d'abord épouser le Batshua Kenaani dans une famille des tzadikim de Canaan. Bon, voilà pour le premier verset, je continue. Verset 2. Kum l'er padenaram, c'est Isaac qui parle à Jacob. Va padenaram, beta betuel abiyamicha, dans la maison de Betuel, le père de ta mère, vekarlecha misha misha, et prends de là-bas pour toi une femme, mi benot laban achi mecha, des filles de Laban, frère de ta mère. Verset 3. Ve'el Shaddai barechotra, et le Dieu Tout-Puissant te bénira. Ve'el Frecha ve'irvecha, te fructifiera et te multipliera. Ve'aita likalamim, et tu seras une assemblée de peuples. Ve'iten lecha et birkat Abraham, et il te donnera la bénédiction d'Abraham. Lecha uzalacha itach, à toi, à ta postérité après toi, les riches techa et teres megolecha, afin que tu hérites du pays de tes pérégrinations, asher natan elokim l'Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Voilà, c'est clair, il y a deux bénédictions différentes. L'une qui devait aller à Esaü, c'est la bénédiction des biens matériels. L'autre qui devait aller à Jacob, la bénédiction d'Abraham pour qui deviendra Israël. C'est bien clair. Hein? Alors le plan de Isaac est le suivant. Esaü va fonder la civilisation matérielle. Jacob va fonder la civilisation spirituelle. Il y aura alliance des deux. Et à eux deux, ils sauveront le monde. Est-ce que c'est bien clair? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'Ésaü est devenu un rachat de sa provocation et que Jacob est devenu un tzaddik de sa provocation et qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour entre eux. La mère savait, Rivka savait que les frères ne s'aimaient pas. Alors c'est pourquoi la mère va intervenir. Sachant que les frères ne s'aiment pas, elle savait qu'ils ne partageraient pas et donc que le monde est perdu. Et elle dit, pourquoi je vais perdre les deux à la fois? Vous avez suivi le raisonnement? Voilà donc, le plan d'Isaac est très clair. Bénédiction matérielle à l'homme de la matière. Bénédiction spirituelle à l'homme de l'esprit. Ils partageront. Rivka sait qu'ils ne partageront pas. Alors, voilà la stratégie de Rivka. Parce qu'il n'y a que quatre possibilités. Ou bien, je vais en prendre deux d'abord, pour que ce soit bien clair. Ou bien, c'est Ésaü qui deviendra Israël. Ça veut dire que c'est l'homme de la matière qui va aussi prendre les tâches de l'esprit. Ça sera un échec. Et l'histoire de la civilisation montre que quand l'homme de la matière prend les tâches de l'esprit, c'est un échec. Je décrypte. Lorsqu'on s'occupe des tâches de la vie spirituelle avec les règles qui président aux lois des phénomènes matériels, on aboutit à l'échec. On met l'impersonnel là où il doit y avoir le sujet personnel. On met le déterminé là où il doit y avoir la liberté. On met la quantité là où il doit y avoir la qualité. Lorsqu'on traite l'âme humaine par les méthodes de la méthode expérimentale qui doit s'occuper des objets, on transforme le sujet en objet. Et c'est le drame de la civilisation occidentale, en tout cas la tension qu'il y a dans la civilisation occidentale. On s'occupe du phénomène l'homme avec les méthodes qui sont légitimes pour s'occuper du phénomène objet, pour s'occuper du phénomène physique, pour s'occuper du phénomène chimique, pour s'occuper du phénomène impersonnel, matériel, déterminé. Et la mentalité de l'université occidentale consiste à projeter sur le sujet humain les méthodes de l'objet. Est-ce que c'est clair? Quand Ésaü prend la voix de Jacob, c'est le court-circuit, encore une fois, par une image. Chaque fois que j'entends un prêtre chrétien lire la Bible, c'est Ésaü qui prend la voix de Jacob. Est-ce que c'est clair? Les mains, c'est les mains d'Ésaü, et la voix, c'est la voix de Jacob. Vous avez compris l'image. Alors voilà, le premier profil. Le premier profil est terrifiant. C'est l'homme de la matière introduisant la mort dans la vie de l'esprit. Et c'est le drame de la conscience chrétienne. Je ne sais pas si vous percevez de quoi je suis en train de parler, d'ailleurs je ne vous le souhaite pas, ce n'est pas votre problème. Il parle de Dieu vivant en termes mortifères. Ils ont fait une liturgie de la mort sur le Dieu vivant. Est-ce que c'est clair ce sujet-là? Je ne sais pas si parmi vous, certains sont rentrés dans les églises, et vous avez l'impression de rentrer dans un rite où on adore la mort, au nom de la résurrection. C'est vraiment le délire. Quoi. Donc, vous rentrez dans une synagogue, c'est plus vivant qu'un chouk. Bon, ceci dit, c'est un autre monde. C'est ce drame, si vous voulez, de l'homme de la matière qui s'occupe des tâches de l'esprit. Il introduit la mort dans la vie. Il introduit la matière dans l'esprit. Voilà la première éventualité. Rivka veut empêcher ça. Si les tâches, si la bénédiction matérielle va à Ésaü, voilà ce qui arrivera. Il arrivera à faire compte que Rome va se prendre pour Jérusalem. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce que c'est clair? Non. Remarquez, nous sommes contemporains de changements. Je vous en signale un seul. C'est que les chrétiens ont abandonné le latin, sauf les mots hébreux qu'il y a dedans. Ils continuent à dire Amen, Alléluia. Mais ils le disent en latin. Pour revenir au sujet, la deuxième figure que Rivka va imposer, c'est que l'homme de l'esprit soit chargé aussi des tâches de la matière. Alors lorsque l'homme de l'esprit s'occupe des tâches de la matière, il les transfigure, il les illumine, il les ressuscite, enfin il les anime. Vous avez compris la différence. Et je crois que dans l'histoire, on s'approche de Hanouka, c'est les Grecs et les Judéens. Lorsque les Judéens s'occupent des problèmes des Grecs, ils sont prix Nobel. Le problème des Grecs, c'est la mathématique. Et bien lorsqu'un Juif s'occupe de mathématiques, il peut devenir physicien. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, les Juifs peuvent donner un coup de main aux Grecs à leurs problèmes. Et en plus, la manière dont ils s'en occupent, il met finalement quelque chose que les Grecs ne pouvaient pas y mettre. Ce que Pascal appellerait un esprit de finesse spirituelle. Quelque chose de différent du déterminisme hellénistique. Vous avez compris à quoi je fais allusion, okay? Mais l'inverse, quand le grec s'occupe du problème du judéen, c'est-à-dire la prophétie hébraïque, alors il en sort la vie transformée en mort. C'est ce que les Grecs ont essayé de faire en faisant de la Bible un des livres de la religion universelle, en mettant la Bible dans la série des catéchismes des religions humaines. Et je ne voudrais pas trop analyser cela, parce qu'il y a trop de notions qui risquent de s'accumuler, mais voyez donc quelle est la différence des deux plans, le rêve d'Isaac et l'intervention de Rivka. Encore une fois, le rêve d'Isaac, donner la bénédiction matérielle à Ésaü pour qu'il partage avec Jacob. Donner la bénédiction spirituelle à Jacob et qu'il partage avec Ésaü. Rivka sait que ça ne marchera pas. Alors elle intervient et elle impose à Jacob la bénédiction d'Ésaü. J'ai bien dit, elle impose. Il y a plusieurs textes qui montrent ça. Jacob dit, c'est pas pour moi. Jacob, comme Jacob, a peur des tâches d'Ésaü. Je vous citerai deux textes. Hein? C'est lorsque nous avons dans la page de Vayetse, je vous cite de mémoire, vous retrouvez. Lorsque Jacob a la vision des anges à Bethel, et lorsqu'il se réveille le matin, il fait un vœu, et il dit, si Dieu me donne du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, il sera mon Dieu et je serai à son service. Il vient de quitter cette scène où il a reçu la bénédiction d'Ésaü. Un vœu, c'est le vœu de privation. Ce n'est pas qu'il met pour condition d'être serviteur de Dieu que Dieu lui donne du pain et un vêtement. C'est l'inverse. Il vient de recevoir la bénédiction de la richesse matérielle, il n'en veut pas. Il en a peur, ce n'est pas pour lui. Il a dit d'être compromis dans les tâches de la matière. Alors il dit à Dieu, je veux du pain pour manger. Et un vêtement pour m'habiller, c'est un éder, c'est un vœu. Un vœu, c'est un vœu de privation. Et je serai ton serviteur. Le Midrash pose la question, est-ce que du pain, c'est pas pour manger? Est-ce que un vêtement, c'est pas pour s'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire, du pain pour manger, un vêtement pour s'habiller? Et le Midrash répond, ça va vous étonner. Il dit, je veux pas du pain et que j'aille le vendre pour acheter un vêtement. Je veux pas un vêtement et que j'aille le vendre pour acheter du pain. Je veux pas le commerce. Même ça, il voulait pas, Jacob. Vous voyez, quel juif c'est. ça veut dire, c'est cette terreur de la vie matérielle, de l'insertion dans la cité. Jacob, c'est le moine juif. Je dis ça puisque je parle français. Jacob, c'est vraiment le Bachour Yeshiva authentique. Celui qui a pour option de ne pas s'occuper de ce monde-ci. Il s'occupe de son livre. Le reste, c'est pas pour lui. C'est pas un Bachour Yeshiva qui fait des trafics. Hein? C'est un Bachour Yeshiva qui s'occupe de son livre. Est-ce que vous avez compris le problème? Mais ce Jacob-là, qui est donc l'homme de la vocation spirituelle, est que ça. C'est pas encore Israël. Voilà, c'est là qu'on arrive au fond, au véritable, véritable problème. On attend Israël, et qu'est-ce qu'on a? Un Ésaü, que la banque, ou un Jacob, que le livre. Mais on attend Israël. Alors, je n'ai pas dit qu'il s'agit d'un banquier pieux, ou d'un Tamil Chacham banquier. Mais vous avez compris, j'ai compris où cela va. C'est-à-dire, on attend un type d'homme qui sera capable, et Jacob seul peut le devenir. Si Ésaü le devient, c'est le Romain. Si Jacob le devient, c'est Israël. Un type d'homme qui sera capable et des tâches matérielles et des tâches spirituelles. Quand Jacob prend sur lui les tâches d'Ésaü, les deux cachères, les siennes et celles d'Ésaü, alors on a Israël. Et vous voyez, nous avons donc quatre types humains qui sont là. Un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü. C'est le païen de l'homme de la matière. L'homme du paysage matériel, littéralement, étymologiquement, le païen, c'est l'homme du paysage, le paysan, l'homme du paysage. Et ça, c'est Ésaü, qui n'est que rouge, le matérialiste historique. Okay. Bon. Vous avez Jacob, c'est l'homme de l'esprit qui n'est que l'homme de l'esprit. Et le problème qu'il faut résoudre n'est pas résolu. Et puis vous avez un Ésaü qui se prend pour Jacob. Ça, nous avons la figure du chrétien. Pour moi, c'est évident. Et puis nous avons un Jacob qui prend aussi les tâches d'Ésaü et ça devient Israël. Alors nous avons là une grille qui nous décrypte l'histoire du peuple d'Israël. Il y a une phase très difficile, c'est le conflit entre Jacob et Israël. Je répète bien, pour que ce soit bien clair, le conflit entre Jacob et Israël. C'est-à-dire le conflit entre ce Jacob qui seul pourrait devenir Israël, mais qui a peur de le devenir. Est-ce que c'est suffisamment clair comme schéma? Okay. Alors, je vais repartir, nous sommes partis une minute, je voudrais un peu résumer. Il y a une identité humaine apparemment impossible à engendrer. C'est l'identité d'Israël. Elle porte en elle un problème apparemment, premièrement, contradictoire et incompatible, résoudre à la fois les tâches spirituelles et les tâches matérielles. Et pour cela, elle a besoin d'avoir comme origine et l'origine hébraïque d'Abraham et l'origine araméenne de Nahor. Qu'est-ce que c'est l'origine araméenne de Nahor? C'est l'hébreu au courant des méthodes des civilisations. C'est le juif de la Galoute. C'est l'hébreu de la Galoute, Nahor. Nahor, c'est l'hébreu de Babel qui reste Babel. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Okay. Et puis, et voilà que ce qui va naître, ce sont deux jumeaux qui vont être en compétition dans l'histoire. Les deux ont pour objet d'être Israël. Alors il y a deux Israël radicalement différents. Un Ésaü qui serait Israël, c'est la matière s'arrogeant à l'étage de l'esprit, et nous avons l'exemple de Rome, ou un Jacob qui serait Israël, et là nous avons l'exemple d'Israël. Il n'y a que les Juifs qui peuvent être Israël. Mais si les Juifs restent Juifs et ont peur de devenir Israël, c'est l'échec. C'est clair ce que je dis là? Bon, je vous parle en milieu israélien. Un discours comme ça, on ne peut pas le tenir en Angola. Ils se perdraient les pédales. Alors, ils ne comprendraient rien, parce que pour eux, ils ne savent pas que c'est un Israélien. Ils croient que c'est un Juif. mais c'est pas une blague. Je veux dire, ils croient que c'est un Juif. Et que ça. Je voulais identifier les personnages. Ésaü, qui ne serait que qu'Ésaü. Ça, c'est vraiment l'homme de la matière. C'est le goy de la Rome païenne. Ésaü, qui se prendrait pour Israël, c'est la Rome chrétienne, en illustration. Jacob, qui serait que Jacob, c'est le juif du ghetto. Et puis Jacob, devenant Israël, c'est Israël. C'est-à-dire, prenant les tâches de la cité en main. Et alors, actuellement, nous sommes dans un conflit entre Jacob et Israël. Et un paradigme d'Israël par Jacob. J'espère que j'ai froissé personne. Si vous voulez être froissé, ça peut venir. S'il y a des questions... On va y venir, monsieur. Attendez, je vois quelle heure il est. Bon, on a quand même... On a un quart d'heure encore. Oui, on a un quart d'heure. 20 minutes. J'achète. Oui, je t'écoute.
En fait, j'ai deux questions.
Alors, une par une.
La première, c'est, au départ, vous avez démontré que le risque du monstre qui risquait de naître de Yitzhak et Rivka, c'est en fonction de l'origine araméenne de Rivka. C'est-à-dire que ce risque d'un rachat qui risquerait de naître également, qui serait un rachat totalement rachat. Et la manière pour résoudre ce problème aurait été au niveau de Dieu de faire naître deux êtres. Alors, je ne vois pas très bien comment cette manière de faire naître deux êtres, qui, selon votre explication après, c'était deux êtres qui en soi-même pouvaient être tous les deux des tzadikim. En quoi est-ce que cette manière de faire naître deux êtres résout le problème initial du tzadik rachat? Parce que la solution que vous avez donnée, c'est une solution matérielle et spirituelle, mais ce n'était pas la solution du tzadik rachat.
Si. Parce que, voilà. Et effectivement, il y a ces deux plans qui sont à la fois parallèles et risquent de s'amalgamer. Tzadik rachat, matériel et spirituel. Alors, je voudrais prendre une analyse de ce parallèle. Dans chacune des deux vocations, on peut être tzadik ou rachat. C'est-à-dire, dans la vocation matérielle, on peut être tzadik, et dans la vocation matérielle, on peut être rachat. C'est une illusion de croire que la vocation matérielle fatalement mène à être rachat. On peut être tzadik. J'ai connu des hommes de la matière qui étaient des tzadikim avec des balmidot extraordinaires. Inversement, dans la vocation de l'esprit, on peut être ou tzadik ou rachat. Le fait que l'araméen peut devenir tzadik en redevenant hébreu, c'est Abraham lui-même. Abraham a été d'abord araméen dans l'indice Abraham, et il a fait l'effort de se réengendrer en tant qu'hébreu, Abraham. Et n'importe quel Nahor pourrait redevenir Abraham, puisqu'Abraham était aussi à ce niveau-là, Abraham devenu Abraham. Et la preuve, c'est que un Ésaü tzadik, ça a existé dans notre histoire, c'est Joseph. C'est pourquoi le Midrash va désigner Joseph comme Sitno shel Esav, l'antagoniste de Ésaü. Ésaü sera vaincu par Joseph, parce que Joseph, c'est un Ésaü tzadik, qui est capable de vaincre le Ésaü Rachar. Je veux une parenthèse d'analogie. Nous avons un couple de Hachamim dans le Talmud qui sont Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish était le chef d'une bande de...